Dans la campagne anglaise, quelqu'un a agressé une dame âgée et l'a laissée mourir.
Ce crime était une horrible tragédie. Madame Morrell a connu une fin abominable.
La police suit des centaines de pistes qui ne mènent à rien.
C'était frustrant de ne pas avoir élucidé l'affaire.
De folles rumeurs évoquent des opérations secrètes du gouvernement. A-t-on tué Hilda Morrell parce qu'elle en savait trop ?
Hilda a été enlevée, puis questionnée et torturée.
L'affaire demeure non résolue durant 20 ans, jusqu'à ce que des avancées médico-légales mènent la police à une conclusion choquante.
La vérité est affreuse, sale et méchante.
Cette reconstitution est basée sur le récit de témoins, les preuves de la police et les dossiers judiciaires. Le 24 mars 1984, à Shrewsbury, en Angleterre, en cherchant une femme disparue, on fait une découverte macabre.
Le corps gisait entre des arbres. À cette époque de l'année, il n'y avait que des feuilles mortes et des buissons. L'endroit était découvert.
On identifie rapidement la victime. Il s'agit de Hilda Morrell, qui était âgée de 78 ans. C'était une rosiériste connue de la région. On avait entamé des recherches 3 jours plus tôt, quand des voisins avaient signalé sa disparition. Mais sa maison est située à l'autre bout de la ville. Pourquoi son corps est-il ici ?
Il y avait des signes évidents qu'il s'agissait d'un acte suspect. On a donc sécurisé la scène de crime et on a ouvert une enquête majeure.
Bien vite, les lieux fourmillent d'agents et d'experts en criminalistique. Le docteur Peter Ackland est le pathologiste de la région. Il arrive peu de temps après la découverte du corps.
La scène de crime était vaste. Il fallait traverser un champ labouré pour y accéder. Je me souviens qu'on marchait avec peine sur la terre qui était encore givrée. Il avait plu durant les 2 ou 3 derniers jours.
Le docteur Ackland est exposé à la vue troublante du cadavre.
Il y a 4 causes de décès principales. Un accident, un suicide, une mort naturelle ou un homicide. Alors on considère d'abord ces 4 possibilités. Il était peu probable qu'un accident ait causé sa mort. Mais à défaut de prouver qu'une autre personne a été impliquée, on doit envisager toutes les possibilités.
On constate de premiers indices qui suggèrent un crime ignoble.
Il lui manquait certains vêtements.
Hilda Morrell n'a pas de sous-vêtements et on n'en trouve pas près d'elle. C'est un fait perturbant.
En fouillant les lieux, on a récupéré les chaussures de Madame Morrell et 2 verres brisés qui provenaient manifestement d'une paire de lunettes. On a aussi trouvé un vieux chapeau. Un peu plus loin, il y avait un couteau.
Le docteur Ackland constate de nombreuses blessures sur le corps.
Elle avait de petites plaies causées par un couteau. Il y avait des éraflures très importantes sur ses 2 genoux qui étaient rouges vifs. Puis, elle avait des ecchymoses, surtout près d'une épaule.
Hilda Morrell semble avoir une clavicule fracturée. Les faits portent de plus en plus à croire qu'elle a été tuée.
Il n'y avait pas de sang sur le sol où on a retrouvé son corps. Cela signifiait que peu de sang s'était écoulé de ses blessures.
Puis les enquêteurs aperçoivent un indice révélateur. Une tache sur le jupon de la victime. On présume qu'il s'agit de sperme, ce qui pourrait indiquer une agression sexuelle. Il faut procéder à des tests pour le confirmer. On ratisse les environs et on trouve une voiture abandonnée sur le bord de la route. On vérifie l'immatriculation qui révèle que ce véhicule appartenait à Hilda Morrow.
Elle était sortie de la route pour se coller très près du fossé.
La police reconstitue le crime d'après la piste des indices physiques menant à son corps. Trois jours plus tôt, Hilda Morrow a peut-être conduit jusqu'ici pour faire une randonnée dans les champs. Elle se serait garée près du fossé afin de ne pas bloquer la route. Une fois sortie de la voiture, elle aurait été attaquée par quelqu'un. Puis, l'individu l'aurait traînée de force dans le champ pour l'agresser sexuellement et la tuer. Mais les enquêteurs savent que l'œuvre de Dame Nature leur a nui gravement.
Trois jours se sont écoulés entre le crime et la découverte du corps. C'est très long parce que les 24 premières heures sont généralement les plus cruciales. On a perdu une quantité importante d'indices et de preuves biologiques parce que le cadavre a été exposé aux intempéries durant tout ce temps.
La police vient d'amorcer son enquête et elle a déjà plusieurs jours de retard. On visite la maison de Hilda Morrow afin de recueillir des informations au sujet des dernières heures de sa vie.
Does anyone else live here?
Au départ, tout semble en ordre. La porte arrière est déverrouillée, ce qui est courant dans la campagne anglaise.
Les agents ont rapporté qu'il n'y avait aucune trace d'effraction au domicile.
Tandis que les policiers s'avancent dans la maison vide, leurs soupçons se confirment.
Sur la table de cuisine, il y avait des sacs à main, des chéquiers et d'autres articles du genre.
On fouille le portefeuille de la victime, il est vide, ce qui est peut-être signe de cambriolage. Mais on trouve également sur la table un panier à moitié rempli de provisions. Puis on fait une curieuse découverte près de l'évier.
Son dentier était dans la cuisine.
La police trouve étrange que Hilda Morrow ait quitté sa maison pour aller se balader dans les champs sans apporter son sac à main ni son dentier. En voyant des armoires et des tiroirs ouverts, les agents pensent que quelqu'un aurait pu fouiller la résidence. Ils trouvent alors un indice qui signale un acte suspect.
Dans un coin de la pièce, il y avait un téléphone dont le fil avait été arraché de la boîte de jonction.
Les enquêteurs continuent d'inspecter la maison et ils découvrent d'autres indices troublants.
Dans l'escalier qui mène à l'étage, on a vu que certains barreaux de la rampe étaient brisés. Cela indiquait qu'il y avait eu une lutte quelconque.
Un bout de tissu est accroché au bouton de la porte de chambre. Il est entortillé comme s'il avait servi de corde.
Une des théories était que l'intrus l'aurait utilisé pour ligoter Hilda Morrow.
La police déduit que le drame qui s'est terminé dans le champ à l'autre bout de la ville aurait pu commencer ici.
En combinant deux séries d'éléments de preuve, la police a bâti sa théorie sur le déroulement des faits. On ne pouvait pas émettre de théorie en se basant sur une seule scène de crime.
Elle a peut-être entendu un bruit quand elle rangeait ses provisions dans la cuisine. L'individu qui était dans sa maison l'a attaqué. Puis, il l'a enfermé dans sa chambre. Mais qu'est-il arrivé ensuite? les enquêteurs demandent à des experts en criminalistique d'examiner la maison.
Ils ont passé la résidence au peigne fin de façon méthodique. Ils ont inspecté chaque pièce depuis le plancher jusqu'au plafond, en quête d'un mobile. Pourquoi un intrus se serait-il introduit dans cette maison?
Dans la chambre, des indices évoquent un mobile plus odieux que le vol.
On a trouvé une culotte dans la chambre. On ignorait si Mme Morrow portait cette culotte au moment du crime. Mais lorsqu'on a trouvé son cadavre, elle n'avait aucun sous-vêtement.
Sur le lit, on recueille aussi un mouchoir, possiblement taché de sperme. Il devient apparent que Hilda Morrow a été agressée sexuellement. On fait analyser la culotte et le mouchoir en laboratoire. L'équipe d'agents ratisse la maison entière à la recherche d'empreintes ou d'autres preuves biologiques. On prélève des dizaines d'empreintes. L'une d'elles se trouve sur une boîte de boutons qui semble avoir été fouillée. La police espère récolter plus d'indices du corps de la victime. Son autopsie pourrait orienter les enquêteurs dans la bonne direction.
On a confirmé qu'elle avait une fracture à la clavicule. Puis on a vu la plaie à son bras faite par un couteau, prouvant ainsi qu'elle avait été attaquée.
Sa blessure au bras est profonde, ce qui suggère que Hilda Morrow s'est défendue contre un agresseur. Mais d'autres blessures causées par des coups de couteau sur son flanc ne sont pas aussi sévères. En les examinant, on comprend que ces coupures n'ont pas causé sa mort et que ce n'était pas leur but.
Il y avait 3 ou 4 petites blessures sous sa cage thoracique du côté droit. Elle n'était pas très profonde et elle n'avait pas causé beaucoup de saignements à l'intérieur du corps.
Les coups de couteau n'ont pas perforé ses organes vitaux ni ses artères principales. L'individu qui la maîtrisait semblait avoir un couteau à la main et il la piquait chaque fois qu'elle cherchait à s'enfuir ou à se débattre. Mais si Hilda Morrow n'est pas morte de ses coups de couteau, qu'est-ce qui l'a tuée? Les marques rouges vives sur ses genoux mènent à une terrible conclusion. Le sang réagit différemment par temps froid que par temps chaud. Certaines blessures causent des contusions qui virent au bleu en temps normal, mais d'autres demeurent rouges vifs lorsqu'il fait froid. Les genoux rouges de Hilda Morrow prouvent qu'après avoir été agressée, elle a survécu durant des heures dans ce champ glacé du mois de mars.
Le pathologiste a déterminé que la cause du décès était l'hypothermie. Ce n'étaient donc pas les actes de violence qui ont directement entraîné sa mort, mais bien l'hypothermie.
Quelqu'un a attaqué Hilda Morrow et il l'a laissée pour morte dans le champ. Puis le printemps glacial a fait le reste. La mort de la vieille dame ébranle la petite ville paisible de Shrewsbury.
La population était horrifiée que ce crime affreux ait pu se produire.
Lorsque l'enquête devient publique, la police décroche vite une première piste. Des témoins disent avoir vu un homme costaud à bout de souffle, vêtu d'un complet gris. Il sortait en courant du champ où on a découvert Hilda Morrow.
C'était un homme de race blanche, âgé de 25 à 35 ans. On l'a généralement décrit comme étant pas très en forme. Il avait le visage rouge et il suait à profusion. Les gens ont remarqué qu'il portait un complet, ce qui était un peu singulier dans les environs.
On crée et on diffuse rapidement un portrait robot. La police désigne le suspect par un simple surnom, le coureur. Les enquêteurs interrogent une des dernières personnes à avoir vu la dame vivante, sa voisine.
Des recherches ont révélé par la suite que ce matin-là, la victime avait retiré environ 50 livres à la banque.
Cela semble confirmer que le portefeuille de Hilda a été pillé lors d'un cambriolage. Puis, on se concentre sur la question qui demeure, à savoir comment la victime a abouti dans un champ à 9 km de son domicile.
Il y a bien des raisons pour lesquelles Mme Morrell aurait pu arriver sur les lieux avec sa voiture. On a donc érigé des barrages policiers à proximité de cet endroit pour trouver des témoins qui auraient été sur la route ou dans les environs au moment du crime.
Les enquêteurs apprennent bientôt que plusieurs ont vu une femme âgée se faire conduire à travers la ville dans une voiture blanche. Rosalind Scott est un des témoins.
Tout à coup, cette voiture a émergé en trombe de Wenlock Road. J'ai cru qu'elle allait arracher mon pare-choc avant, à droite.
Le véhicule que décrit Rosalind Scott correspond à la voiture blanche de Hilda Morrell.
You say you saw the driver very clearly. Do you remember what he looked like?
The driver. À mon avis, le conducteur devait avoir entre 27 et 32 ans. Il avait une coupe de cheveux courte et très soignée.
Very clean cut.
Puis il avait assurément des pommettes hautes, je suis certaine de ça.
D'autres gens rapportent aussi qu'un homme conduisait dangereusement une voiture blanche avec une vieille dame comme passagère.
À partir des déclarations des témoins, on a pu reconstituer le trajet qui a mené la victime de sa maison jusqu'à l'endroit où on a retrouvé son corps.
Selon les descriptions de Rosalind Scott et des autres témoins, la police crée un deuxième portrait robot d'un suspect potentiel. Puis, les agents se tournent vers la voiture en espérant qu'elle livrera des indices précieux.
On a déployé des efforts extraordinaires en ayant recours à des moyens techniques alors inédits. Certains d'entre eux sont courants de nos jours, mais ils étaient innovateurs à l'époque. Par exemple, on a traité l'intérieur de la voiture avec un aspirateur muni d'un filtre spécial qui retenait le moindre grain de poussière ou résidu.
En scrutant l'intérieur du véhicule, on découvre un élément de preuve étrange, un pamplemousse qui a été percé plusieurs fois. Et ce n'est pas tout.
Un des faits les plus inquiétants dans la voiture, c'était les marques dans le tableau de bord. On aurait dit que l'individu qui avait enlevé Mme Morrell avait planté un instrument tranchant dans le tableau de bord. Cet homme avait été très violent dans le véhicule, peut-être pour la forcer à rester tranquille. Il l'aurait menacée en lui montrant ce qui lui arriverait si elle ne se taisait pas ou si elle ne se calmait pas.
La série de faits bizarres commence à s'éclaircir. Les éléments de preuve indiquent que Hilda Morrell a été attaquée chez elle. Puis, l'agresseur l'aurait amenée de force dans sa voiture. Il l'aurait traînée dans un champ pour l'abandonner à son sort. Les agents attendent des résultats concluants des analyses des trois scènes de crime. Ils arpentent à nouveau les rues.
À ce moment-là, l'équipe d'agents a lancé une opération de grande envergure qui a démarré dans les rues avoisinantes de la résidence de Mme Morrell pour s'étaler dans presque toute la ville de Shrewsbury. On a frappé à chaque porte et on a fait remplir un questionnaire dans chaque foyer.
Plus de 120 policiers mènent l'opération. On demande à tous les résidents qui ont récemment été arrêtés à la suite d'un vol quelconque de fournir un alibi pour le jour du meurtre de Hilda Morrell.
On n'a jamais cru qu'il s'agissait d'un crime prémédité et préparé à l'avance. L'auteur de ce crime a agi par panique. Les choses avaient mal tourné. Les enquêteurs étaient assez optimistes quant à cette affaire. Avec l'aide du public, ils pensaient réussir à épingler le coupable dans un délai relativement court.
La police ne ménage pas ses efforts dans sa quête du suspect. On élargit les recherches jusqu'aux villes environnantes plus populeuses. Durant les jours qui ont précédé le meurtre de Hilda Morrell, des centaines de gens ont visité Shrewsbury, dont un groupe de 370 représentants de commerce de Nottingham. Les enquêteurs retrouvent ces personnes.
Bon nombre d'entre eux avaient des antécédents judiciaires. On a donné à une brigade d'enquêteurs la mission d'interroger les membres de ce groupe et de les éliminer, si possible, de la liste de suspects.
Les autorités détiennent les empreintes d'un grand nombre de ces représentants. On prélève les empreintes de plusieurs dizaines d'autres. Puis, on les compare à celles qu'on a trouvées dans la maison de Hilda Morrow.
On a passé beaucoup de temps à tâcher d'identifier les empreintes. On a attribué une multitude de ces empreintes à des gens qui ont visité son domicile en la cherchant après sa disparition.
Parmi les empreintes qui demeurent suspectes, il y a celle qu'on a prélevée sur la boîte de boutons. La police croit qu'elle appartient à l'individu qui a agressé Hilda Morrow. Mais en 1984, établir la concordance d'une empreinte est une tâche manuelle qui exige de la minutie. On doit comparer les empreintes à l'œil nu. Dans ce cas, les efforts sont infructueux. Aucun des représentants ne semble être lié au crime.
On a fini par être assez certain que ces gens n'avaient rien à voir avec l'affaire, mais il a fallu des mois de travail.
On établit que la tache sur le mouchoir trouvé dans la chambre et celle sur le jupon que portait la victime sont bel et bien du sperme.
Le sperme est le produit de l'éjaculation masculine qui peut renfermer des spermatozoïdes. À partir de ceux-ci, il est possible de déterminer le groupe sanguin de l'individu qui les a émis. Mais cet échantillon de sperme ne contenait aucun spermatozoïde.
Six mois après le meurtre, l'enquête se met à piétiner.
C'était frustrant de ne pas avoir élucidé l'affaire.
Parmi les agents, l'optimisme des premiers jours commence à refroidir. Le meurtrier de Hilda Morrow est toujours en liberté. La police anglaise utilise alors un moyen inédit. Elle demande au FBI américain de dresser le profil du tueur.
À l'époque, les enquêteurs principaux ont eu la prévoyance de retenir les services du FBI. Ils ont envoyé au profileur toutes les informations qu'ils avaient.
C'est la première fois qu'on emploie ce procédé en Grande-Bretagne.
Les caractéristiques principales du profil décrivaient cet individu comme étant un solitaire et un petit délinquant. Il n'était sûrement pas très vieux et il avait de la difficulté à garder un emploi. C'était probablement un fumeur qui avait des problèmes d'alcool et de drogue.
La police dispose de ce profil, de plusieurs déclarations de témoins et d'une empreinte. Mais elle n'arrive pas à progresser.
On a toujours cru que cette personne venait de Shrewsbury, mais on ne la trouvait pas. Dans toute enquête, il faut avoir un coup de chance, et ce dernier n'est jamais arrivé.
Mais l'enquête qui piétine sera bientôt propulsée au plus haut palier du gouvernement britannique. La police de Shrewsbury enquête depuis des mois sur le meurtre de Hilda Morrow, mais en vain. Comme elle ne détient aucun suspect potentiel, des rumeurs se mettent à circuler. Robert Green, le neveu de la victime, est un de ceux pour qui l'affaire est loin de se résumer à un vol qui a dégénéré.
J'avais le fort pressentiment qu'elle avait été assassinée à cause de son implication antinucléaire.
Robert Green sait que sa tante connaissait tout sur les roses.
Just a couple of days.
We'll have to make sure that we go for a walk.
She was an expert.
Elle était une experte sur les jardins et les plantes. Elle était plus spécialement une autorité dans le domaine des roses. Elle abordait la vie avec beaucoup d'enthousiasme et elle avait un grand sens de l'humour.
Mais les fleurs ne sont pas la seule passion de Hilda. Son amour de la nature fait qu'elle s'oppose ardemment à l'industrie nucléaire en Grande-Bretagne. Durant les mois précédant sa mort, elle a fait entendre plus clairement ses protestations. Selon Robert Green, elle était dans une position périlleuse.
Le gouvernement était presque devenu paranoïaque. Madame Thatcher avait pris le pouvoir en 1979 et elle avait commencé à mettre en œuvre un programme nucléaire en plusieurs volets. À l'époque, c'était très dangereux d'être un activiste dans ce pays. Hilda était extrêmement intelligente. Elle a bien compris le pouvoir économique de l'industrie nucléaire et elle savait que ce n'était pas sain.
Hilda s'opposait aux armes nucléaires, particulièrement au déploiement des missiles de croisière américains en sol britannique. Durant les jours précédant sa mort, elle ciblait la plus récente centrale nucléaire en Grande-Bretagne. Elle s'apprêtait à présenter un article critiquant l'énorme centrale nucléaire de Sizewell qu'on bâtissait dans le comté de Suffolk. Robert Greene croit qu'on s'en est pris à sa tante à cause de son activisme.
J'ai commencé à comprendre à quel point elle courait un grave danger.
La police apprend qu'avant la mort de Hilda, ses amis avaient remarqué que son comportement frisait la paranoïa. 3 semaines avant sa disparition, elle avait appelé un de ses amis, l'activiste Gerald Morgan Grenfell.
Hello.
I'm very upset. I'm very nervous.
Calm down. Now, what's this all about?
It's about Sizewell. About that paper I'm giving.
What about it?
I'm very upset. I feel as though... I don't know what's going on, but I have a very, very bad feeling about it.
Are they spying on you? Are they following you? Are they tapping your phone?
These people are capable of anything. They will stop at nothing.
At one point,
elle a dit à son amie que si ces gens-là ne la tuaient pas avant, elle voulait que le monde entier sache qu'au moins une vieille dame avait vu clair dans leurs mensonges. Et elle faisait manifestement référence à l'industrie nucléaire.
Robert Greene suppose que la maison de Hilda n'a pas été cambriolée, mais bien fouillée de fond en comble. Il croit que des individus à la solde du gouvernement ou de l'industrie nucléaire se sont introduits chez sa tante pour trouver son article. Lorsque Hilda est rentrée chez elle, elle aurait interrompu leur recherche. Il leur est donc attaqué, puis enlevé.
Hilda a été enlevée. Puis on l'a emmenée dans une installation secrète où elle a été questionnée et torturée. On l'a alors ramenée dans un champ et on l'a laissée pour morte afin de montrer au public ce qui arrivait aux bons citoyens qui s'opposaient à une puissance nucléaire. Ensuite, ceux qui ont enlevé Hilda sont retournés chez elle afin de maquiller les lieux pour faire croire qu'un petit vol avait mal tourné.
Ces allégations prennent du poids quand un fermier des environs déclare qu'il avait marché précisément à l'endroit où on a retrouvé le corps de la victime 2 jours précédant la découverte.
Il a catégoriquement affirmé qu'il aurait remarqué un lapin mort et encore plus, une personne.
Mais ce n'est pas la seule théorie sinistre qui tente d'expliquer la mort de Hilda Morrow. Tam Diehl, un député travailliste, a une autre version des faits qu'il présente devant le Parlement britannique.
Il m'a averti 2 heures à l'avance qu'il allait soulever le cas du meurtre de Hilda Morrow à la Chambre des communes. Il m'a dit qu'il savait de sources sûres que les services secrets britanniques avaient été impliqués dans le meurtre de Hilda. Puis il a ajouté que le crime ne découlait pas de l'industrie nucléaire, mais plutôt de ma participation à la guerre des Malouines. C'était plus spécifiquement relié au torpillage controversé du croiseur argentin Général Belgrano par le sous-marin britannique Conqueror.
La marine britannique était suspectée d'avoir coulé le croiseur, même si elle savait que le Général Belgrano naviguait en eau neutre. Plus de 300 personnes avaient perdu la vie. Ces accusations de torpillage illégitime étaient sérieuses et potentiellement néfastes pour le gouvernement.
Ils cherchaient à tout prix à savoir d'où auraient pu provenir ces renseignements terriblement gênants pour le gouvernement. Ils soupçonnaient, entre autres, qu'ils auraient pu émaner du capitaine de frégate Rob Greene, qui s'adonnait à être le neveu de Hilda Morrow.
Selon la théorie de Tam Diehl, Robert Greene était l'officier de la marine britannique qui avait transmis l'ordre de couler le navire argentin. Il pense que Robert Greene détenait des documents secrets au sujet de l'incident qu'il aurait caché chez sa tante. le gouvernement aurait été déterminé à les récupérer.
Right. No, no, that's not the case.
I was not even on watch.
Je n'étais même pas de service à ce moment-là. J'étais chez moi et j'ai appris la nouvelle du torpillage à la télévision. Je vous assure que je n'ai jamais pris de documents.
Ceux qui ont fouillé la maison de Hilda servaient-ils les opérations secrètes du gouvernement ou de puissants intérêts commerciaux? Peu importe, le résultat est le même. Les théories de complot jettent une ombre bizarre sur l'enquête et elles répandent l'affaire du meurtre de Hilda Morrill dans tout le pays. La police est mécontente.
C'était extrêmement frustrant et agaçant, comme vous pouvez l'imaginer. Pendant qu'on essayait de trouver le meurtrier d'une dame âgée, on était aux prises avec ces histoires de complot politique. Mais pourquoi le gouvernement aurait-il fait assassiner une vieille dame de 78 ans qui habitait la ville de campagne de Shrewsbury?
Dès le départ, j'ai cru que ces théories de complot n'étaient pas fondées.
Toutefois, la police n'a rien pour contrer ces bruits ni prouver la culpabilité de quelqu'un d'autre. Puis, après avoir été dans l'impasse durant 15 mois, les agents ont enfin le coup de chance qui pourrait faire taire toutes les rumeurs de complot du gouvernement.
On a eu vent d'un certain homme. Il était détenu par la police de la région de Londres, qui l'interrogeait au sujet du meurtre plutôt sordide de deux femmes âgées. Il a donc été amené à Shrewsbury. Et il nous a livré des bribes d'informations.
David McKenzie a un casier judiciaire. Il raconte à la police qu'il a attaqué et blessé gravement une femme âgée près de Shrewsbury au début de 1984.
Le seul meurtre qui correspondait à cette description était celui de Madame Morrill à Shrewsbury.
David McKenzie correspond au profil du FBI en tant que délinquant solitaire. Malgré certains détails flous, il relate la fameuse randonnée folle avec Hilda Morrill à bord de sa voiture de façon assez fidèle pour porter à croire qu'il est peut-être le tueur.
Cela semblait très plausible en le regardant et en lui parlant.
Mais bien vite, son témoignage ne tient plus la route.
Lorsqu'il a continué à débiter son histoire, on a compris que cet homme racontait n'importe quoi.
David McKenzie finit par craquer et tout nier.
On a su qu'il souffrait de certains troubles psychiatriques. En termes simples, disons que s'il entendait parler un jour d'un crime, en lisant le journal ou en regardant les actualités télévisées, il pouvait s'imaginer qu'il était le coupable un mois plus tard.
C'était encore une fausse piste. La police mène une enquête intensive depuis près de 2 ans, incluant une chasse à l'homme à l'échelle nationale, mais elle repart à zéro. Les agents n'ont d'autre choix que de mettre l'enquête sur le meurtre de Hilda Morrill en veilleuse. Celui qui a tué la rosiériste de 78 ans semble avoir réussi le crime parfait. Près de 20 ans après le meurtre, l'affaire est toujours non résolue. Puis, en 2002, on confie à l'enquêteur Amory Clare le mandat de revoir l'affaire.
On ne ferme jamais les enquêtes des crimes majeurs, car on les soumet toujours à des examens périodiques. Le service de police avait décidé de faire réexaminer tous les éléments de preuve, le dossier de l'affaire et les pièces à conviction.
La tâche est colossale.
Il y avait environ 750 000 pages dans le dossier. Le but était de regarder toute l'affaire d'un œil neuf pour tenter d'élucider un crime qui hantait le service de police depuis près de 2 décennies.
Le jupon de Hilda retient l'attention. On n'avait pas créé de profil génétique à partir de l'échantillon de sperme retrouvé. En 1984, les techniques d'analyse d'ADN n'étaient pas assez avancées. Mais 20 ans plus tard, un échantillon aussi gros qu'une tête d'épingle peut produire un profil génétique significatif. On examine à nouveau les échantillons prélevés sur les scènes de crime.
J'ai trouvé un extrait de la tache de sperme sur le jupon qui avait été congelé en 1984.
Le résultat de l'analyse désigne un suspect qu'on avait écarté.
Même si on n'a pas pu obtenir le profil génétique complet du contrevenant, son ADN avait une particularité très rare. C'est pourquoi, lorsqu'on a fait une recherche dans la base de données, qui renfermait alors l'ADN de 2 millions de personnes, on a obtenu une seule concordance.
Le test d'ADN identifie un homme du nom de Andrew George. Au moment du meurtre, il était âgé de 16 ans.
Les agents avaient d'abord entendu parler de Andrew George durant l'enquête initiale parce que le 28 mars 1984, il avait cambriolé une résidence dans la région de Shrewsbury.
La police avait interrogé Andrew George pendant qu'il était en détention provisoire pour ce vol. On avait pris ses empreintes lorsqu'on l'avait arrêté. Comme il avait fourni un alibi pour le jour du meurtre de Hilda Morrill, on n'avait pas comparé ses empreintes avec celles retrouvées dans la maison. Mais 20 ans plus tard, les agents ne veulent pas commettre la moindre erreur. On passe en revue d'autres éléments de preuve de l'époque et on trouve un filon. L'empreinte digitale recueillie jadis sur la boîte de boutons de la victime appartient à Andrew George.
Maintenant, on avait les empreintes digitales de Andrew George qui le situaient dans la maison de Madame Morrill. On pouvait certifier qu'il avait été chez elle. La présence du sperme de Andrew George sur la combinaison de la victime prouvait qu'il avait été en contact avec elle. En combinant ces deux faits, on avait des arguments suffisants pour faire arrêter Andrew Harold George.
La police trouve rapidement le suspect et elle procède à son arrestation.
Le jour où j'ai déclaré à Andrew George que je l'arrêtais pour l'enlèvement et le meurtre de Hilda Morrill, il n'a rien avoué. Mais l'expression sur son visage en disait long.
On l'a interrogé durant 3 jours. Il a gardé le silence la majeure partie du temps et il n'a pas répondu à la plupart des questions. Il n'a pas su expliquer pourquoi on avait recueilli son ADN et ses empreintes. De l'avis général, il n'y avait pas d'explication.
Croulant sous le poids des accusations contre lui, Andrew George raconte enfin ce qui s'est passé chez Hilda Morrill. Il admet s'être introduit dans la maison par effraction pour la cambrioler. Mais il n'était pas seul.
Andrew a déclaré que son frère et lui étaient allés chez Hilda Morrill pour faire un vol.
Andrew accuse son frère aîné d'avoir attaqué Hilda et de l'avoir traînée dans sa chambre. Il raconte que l'idée du viol venait de son frère.
Il a affirmé qu'il avait tenté de violer la victime, mais qu'il ne l'avait pas fait. Il a déclaré que son frère avait enlevé Madame Morrill.
Andrew George dit qu'il n'a pas revu la victime après le départ de la voiture. Mais sa déclaration s'effondre quand on la scrute.
On avait considéré sa déclaration sous tous les angles possibles. Aucune preuve médico-légale ne liait un autre individu à cette scène de crime.
L'avocat de Andrew George admet que son client se trouvait dans la maison de Hilda, mais il soutient qu'aucune preuve médico-légale ne le situe dans la voiture. Cela prouve donc que son client ne l'a ni enlevé ni tué.
On n'a rien prélevé dans le véhicule de Hilda qui permettait de l'impliquer. On n'a pas recueilli de preuves génétiques qui pouvaient identifier Andrew.
L'avocat rappelle également aux autorités que Andrew George ne ressemble pas du tout au portrait robot du coureur ni à celui de l'homme qu'on a vu au volant de la voiture de Hilda. Mais la police est convaincue qu'elle tient son homme. On accuse Andrew George de l'enlèvement et du meurtre de Hilda Morrell, une femme de 78 ans. La police détient des traces d'ADN et des empreintes prélevées sur les lieux du crime qui l'identifient. Il plaide non coupable et il accuse son frère aîné d'avoir commis le crime. Puis, un nouveau témoin, appelé Monsieur A, fait une déclaration remarquable qui détruit la version des faits de Andrew George. Il livre des informations qu'il a obtenues lorsqu'il était en prison avec Andrew.
Quand Andrew George était en détention dans une des prisons, il s'est lié d'amitié avec un détenu et il s'est mis à se confier à lui. Il a révélé certains détails de l'affaire à cet autre détenu. Andrew George avait raconté à Monsieur A ce qu'il avait fait et comment il l'avait fait, ce qui nous a permis d'assembler certaines pièces du casse-tête.
La police peut maintenant reconstituer les faits qui se sont déroulés il y a plus de 20 ans. Comme on le soupçonnait dès le départ, tout a commencé par un cambriolage. Quand Hilda est allée voir ce qui se passait, Andrew l'a attaqué.
Il était coincé. La seule façon qu'il avait de s'enfuir, c'était de l'agresser physiquement.
Il a poussé la femme dans sa chambre.
Il se devait de la retenir là.
Il a bloqué la porte en l'attachant à la rampe.
Don't say a thing.
Il a continué de fouiller la maison, mais Hilda n'est pas restée captive.
Il est fort probable qu'au moment où il pillait les lieux, Madame Morrell a voulu s'enfuir.
En se libérant, elle a cassé les barreaux de la rampe. Andrew est devenu enragé.
Alors il devait être très en colère.
Il l'a traînée dans sa chambre. Il l'a jetée sur son lit.
Il a dû la battre. À ce moment-là, une agression sexuelle a eu lieu.
Puis, apeuré et paniqué, il a forcé Hilda à monter dans sa voiture. Ensuite, il a filé à travers la ville à la recherche d'un endroit où l'abandonner. Mais Hilda n'avait pas dit son dernier mot. Elle a repris conscience à l'extérieur de la ville et elle s'est mise à se débattre.
On croit qu'elle a tenté de sortir. On sait qu'en chemin, Andrew a poignardé le tableau de bord pour essayer de la contenir.
Leur lutte a fini par faire sortir la voiture de la route. Hilda a voulu fuir, mais il n'y avait nulle part où aller.
Il l'a fait marcher de force dans le champ avec un bras autour de son cou et l'autre autour de sa taille. Puis, il devait la piquer à la taille avec le couteau pour tâcher de la maîtriser.
Andrew a trouvé un endroit assez éloigné de la route. Il l'a jeté par terre entre des arbres.
Cette dame avait une très mauvaise vue. On lui avait retiré ses lunettes, qui étaient en morceaux, loin d'elle. Elle ne voyait que d'un œil et pas très clairement non plus. Elle devait être désorientée et en état de choc. À mon avis, c'était un meurtre.
Aveuglée, battue et épuisée, Hilda a cherché ses lunettes sans succès. Mais son corps vieilli avait encaissé trop de coups. Elle ne pouvait qu'attendre des secours. Mais personne n'est venu. Au fil du temps, elle a succombé au froid.
Tous ceux qui ont appris les détails de cette affaire, et certainement les jurés qui ont siégé durant le procès, en sont venus à une conclusion. Ce crime était une horrible tragédie qui a dégénéré. Madame Morrell a connu une fin abominable. Le 6 mai 2005, Andrew a été trouvé coupable du meurtre et de l'enlèvement de Hilda Morrell. Le juge a dit qu'il n'avait aucun respect envers l'humanité. On l'a condamné à la prison à vie.
Dans ce pays, c'est la seule peine qu'on peut imposer pour un meurtre. Il sera donc admissible à une évaluation en vue de sa libération en 2017.
La condamnation de Andrew George a mis fin à la majeure partie des spéculations voulant que le gouvernement britannique soit lié à la mort de Hilda Morrell. Mais Robert Greene n'a jamais écarté la théorie de complot du meurtre de sa tante.
J'ai obtenu de nouvelles informations selon lesquelles Andrew George n'a pas enlevé ni tué ma tante. À l'heure actuelle, j'élabore une présentation de ces informations afin de rouvrir l'enquête.
Mais les agents n'ont reçu aucun élément de preuve inédit. Pour eux, l'affaire est classée.
L'idée du complot fait que l'histoire est tellement plus palpitante à raconter que la vérité. Ces théories de complot sont beaucoup plus romantiques que la vérité. La vérité, elle, est affreuse, sale et méchante.